Pastoureaux et pastourelles, bien le bonjour. Vous avez longuement voyagé, n'est-ce pas? Je vous attendais avec impatience. Vite, prenez place et mettez-vous à l'aise. Je suis votre hôte, Gabriel Côté. Diplômé en études médiévales et en archivistique, j'aime partager ma passion au passant. Je vous propose aujourd'hui de faire un saut dans le temps, de revoir le Moyen-Âge à travers une loupe moderne, une loupe plus féministe. Et surtout de faire justice à cette période si magnifique. Mettez-vous confortablement et bonne écoute, mes chers amis.
Pastourelles et pastoureaux, bien le bonjour et bienvenue mes chers amis à l'épisode 6 de la saison 2 de Ad Medievum Aeternum. C'est votre hôte Gabriel et ça me fait tellement plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, mes chers amis, pour un épisode immense. On a un très très gros épisode aujourd'hui, très riche en informations. Vous le voyez dans l'entête, hein, mon enquête sur la hache de Perun. Le dernier mon enquête que j'avais fait, c'était sur le Vinland et ça avait été un très gros épisode également. Donc les mon enquête, là, quand vous voyez ça dans l'entête, accrochez-vous parce que ça veut dire qu'on va vraiment, vraiment aller en profondeur sur le sujet. Et j'avais très hâte de vous le présenter. J'ai été obligé de le repousser justement parce que on va y revenir dans l'épisode. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des sources qui parlaient, entre autres, des dieux slaves pour des raisons qu'on va voir également au cours de l'épisode. Il a fallu que je me déplace en bibliothèque. En tout cas, ça a été comme à l'université, là, c'était des vieux souvenirs, là, mais aller à la bibliothèque des sciences humaines de l'Université de Montréal pendant 7 heures à chercher dans un paquet de livres pour essayer de trouver un minimum d'informations. Donc, c'est une grosse recherche et j'ai très hâte de vous présenter cet épisode-là aujourd'hui. Mais avant, chers amis, laissez-moi vous dire quelque chose d'extrêmement important. En fait, je dois donner crédit ou ultimement donner quand même mes remerciements à deux personnes extraordinaires. Dans le fond, cet épisode-là voit le jour grâce au coffret celtique. Le coffret celtique, dans le fond, je vais commencer avec ça. Je vais vous présenter comment cet épisode-là est né ultimement. Quand je suis allé à la fête médiévale de Saint-Marcellin, si jamais ça vous intéresse de savoir plus c'est quoi la fête, j'ai un épisode, je pense qu'il y a il y a 4 semaines, là, c'est l'épisode 3 de la saison 2, je crois, où je parle un peu de la fête, qu'est-ce que c'est. Mais à la fête médiévale de Saint-Marcellin, bon, je savais que le coffret celtique était là, et comme d'habitude, quand je sais qu'ils sont quelque part, je m'en vais faire un petit coucou. Et je m'en vais les voir et comme d'habitude, ils sont débordés, il y a plein de gens autour du kiosque, il n'y a rien de surprenant pour vrai, j'adore leurs bijoux, j'en ai acheté moi-même, c'est vraiment du très beau travail. Et je leur passe un salut et Michel est venu me voir et il me dit « Hey Gabriel, j'ai une question pour toi ». Il m'a amené dans le fond un bijou, une reproduction historique de ce qui s'appelle, comme dans le titre, « La hache de Perun ». Et la hache de Perun, dans le fond, il me la présente et il dit « Regarde, ça, c'est une trace archéologique qu'on a trouvée. » Et regarde, sur la hache, il y a des petits cercles. Qu'est-ce que c'est censé représenter? Et là, pastourelles et pastoureaux, j'en avais aucune idée. Et même après cet épisode, je peux vous dire que je suis pas certain non plus. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était. Ultimement, mon premier réflexe, ça a été de compter le nombre de cercles qu'on voyait sur la hache. Et ultimement, de voir si ça arrive au chiffre 9. Pourquoi? Pourquoi le chiffre 9? Eh bien, pastourelles et pastoureaux, chez les Vikings, le chiffre 9 est un chiffre sacré. Pour vous donner des exemples, Odin, le père de tout, le chef du panthéon nordique, s'est pendu 9 jours au Yggdrasil et y a découvert les runes et leurs pouvoirs. Odin possède aussi une bague qui s'appelle Draupnir, qui est une bague qui, dans le fond, se multiplie par 8 toutes les 9 nuits, lui donnant accès à une richesse illimitée. Un autre exemple, la cosmologie du monde. Hein? Dans l'Yggdrasil, il y a 9 mondes. Donc le chiffre 9, ultimement, c'est un chiffre qui revient tout le temps dans la mythologie scandinave. Si vous lisez les sagas, vous allez vous rendre compte, il y en a partout des références au chiffre 9. C'est absolument incroyable. C'est l'équivalent, ultimement, là, du chiffre 7 pour les chrétiens, là, qui a une grande valeur. D'ailleurs, fait cocasse. Quand j'étais jeune, je me suis toujours demandé pourquoi 7? Pourquoi c'est représenté par 7 en Dieu? Puis dans, pourquoi c'est le chiffre sacré du christianisme? En fait, ça vient du Moyen-Âge en partie. C'est qu'on a fait une addition super simple. Les 4 éléments de la Terre, donc la Terre, l'air, le feu et l'air, puis on a additionné la Trinité. Ça fait 4 plus 3, ça donne 7. 7, c'est le chiffre divin. Donc, simple comme ça. Pour les Vikings, j'en ai aucune idée, mais petit fait cocasse, c'est à ça que ça donne. Et ultimement, bon, l'amulette, il me la montre et je commence à compter les cercles. Ben, je me dis, s'il y a 9 cercles, ça veut sûrement faire représentation. C'est un chiffre symbolique chez les Vikings. Et là, bon, premièrement, il n'y en a pas 7. Et ça marche donc pas. Donc déjà là, je me rends compte que ce que j'essaie de trouver comme référence ne fonctionne pas. Et avant d'aller plus loin, pastorelles et pastoraux, je vais vous demander de prendre un instant. Dans la description de cet épisode, j'ai ultimement mis à la disposition, à votre disposition, des images de 3 types de haches qu'on va voir ensemble. C'est des liens Wikipédia. J'ai essayé de vous mettre les liens du coffret celtique et je vous invite même à aller sur le site de coffret celtique, aller chercher les haches que je vais vous nommer. Je sais que la hache de Perun et Mjolnir, qui Mjolnir, c'est pas une hache, là, c'est un marteau, là, mais on va voir où je veux en venir avec ça. Et sont super bien faits, c'est des représentations archéologiques, mais malheureusement pour moi, j'ai pas été capable de mettre les images dans la description, évidemment, je suis obligé de vous mettre des liens. Je vais vous faire une description des haches audio, bien évidemment, mais vous connaissez le dicton, une image vaut 1000 mots, donc si vous avez le temps, si vous êtes pas sur la route, si vous n'êtes pas occupé, je vous invite à aller prendre connaissance des trois artefacts, donc 2 haches et 1 marteau, et ça va vous donner une image beaucoup plus claire de ce que je parle. Je vais quand même en faire la description. La hache de Perun, c'est une hache simple, donc à une lame, où vous pouvez voir que plusieurs détails, dont plusieurs cercles dessus. Les cercles sont agencés en fait sur l'artefact de façon sporadique, dans le sens où il n'y a pas comme une ligne constante. Sauf que on va le voir dans l'épisode, il y a un sens probablement à tout ça, c'est juste que nous on le comprend pas. Mais ce que je veux vous donner ici, c'est que les cercles, en fait, si vous regardez sur plusieurs artefacts, si vous regardez sur différentes haches de Perun, vous allez vous rendre compte que le nombre de cercles n'est pas constant. Des fois il y en a 8, des fois il y en a 7, des fois il y en a 6, des fois il y en a 13, des fois il y en a 14, des fois il y en a 16. Ça dépend énormément de l'artefact et donc, bon, je voyais qu'en essayant de trouver le chiffre 9, j'étais en train de me tirer dans le pied. Et là, justement, Christiane est venue me voir, elle a rejoint la conversation que moi et Michel en avait, et Christiane me dit « On a trouvé ultimement dans des tombes scandinaves, on se demandait si tu savais c'était quoi. » Et là, je me suis dit « Ok, bon, dans des tombes scandinaves, c'est dans le domaine des Vikings, je devrais être correct, donc je veux dire, je vais faire une recherche, puis je vous reviendrai là-dessus. » Donc, j'aimerais premièrement remercier le coffret celtique, parce que c'est grâce à eux que cet épisode voit le jour. Et vous le voyez que c'est des passionnés finis, là. Parce que, déjà, là, quand vous vous lancez dans le commerce de faire des bijoux historiques du monde médiéval, vous le savez que vous ne serez pas millionnaire. On s'entend, là, c'est pas une business que tu te lances qui va te rapporter richesse et fortune pour le reste de tes jours, tu vas avoir un jet privé. C'est un marché difficile, même si, au Québec, c'est vraiment surprenant, mais j'ai vu quelques articles que le marché du médiéval est très florissant. Donc, tant mieux, je suis vraiment content pour eux et pour les gens qui travaillent avec le Moyen-Âge, parce que, vous le savez, moi, je veux qu'on parle de Moyen-Âge tout le temps. Mais tout ça pour vous dire que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices qu'ils font, mais en plus, ultimement, c'est des passionnés finis. Et ce genre de conversation-là, je peux pas avoir ça avec n'importe qui. Donc, je chéris énormément cette conversation, ce lien et ultimement cette passion que ces gens-là ont pour le Moyen-Âge. Et je les remercie parce que sans eux, cet épisode aurait jamais vu le jour. Ça aurait complètement passé probablement sous mon radar. Donc, le lien du coffret celtique est dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller visiter leur site. Partagez leur site. En fait, du réseautage, il y a une façon très facile de les aider, c'est de partager leur site, de les faire connaître. Et sur ce, pastorelles et pastoureaux, je vous ai donné le contexte, comment l'épisode est né et d'où part mon enquête. Et mon enquête, elle part de la hache de Perun. Donc, sans plus attendre, commençons. Première chose, pastorelles et pastoureaux, Christiane m'avait bien et bien mentionné que ça avait été trouvé dans des tombes scandinaves et effectivement ça avait été trouvé dans des tombes scandinaves également, mais je cherchais sur internet un peu ce que c'était, j'étais pas capable de trouver c'était quoi ultimement et j'en avais jamais entendu parler avant. Donc en faisant quelques recherches et avec l'aide de Christiane et de Michel, j'ai été capable de trouver que c'était une hache de Perun ultimement. Perun, c'est qui? Perun, c'est la divinité la plus importante, et là je vais mettre des guillemets ici. On va y revenir, mais Perun, ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que c'est la divinité, la chef, si vous voulez, du panthéon slave. Et donc, c'est un artefact qui, à la base, est d'origine slave. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fout dans des tombes scandinaves? Eh bien, Pastourelles et Pastoureaux, pour ceux qui suivent Ad Medievum Aeternum depuis un moment et qui ont écouté des épisodes sur les Vikings, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Le commerce, les raids, les échanges culturels sont fréquents et ultimement, ces peuples ont été très souvent en contact. Donc, c'est sûr qu'il y a des échanges, il y a des pillages, il y a du commerce, il y a des conquêtes. Ce que ça fait en sorte que la culture, elle se mélange, qu'il y a des emprunts. Donc, là-dessus, il n'y avait rien de surprenant. Sauf que là, ça répond pas à ma question. Pourquoi il y a des cercles sur cette hache? Puis, qu'est-ce que c'est censé représenter, ultimement? Et là, commence ma recherche. Premièrement, Pastourelles et Pastoureaux, je dois mentionner quelque chose. J'ai dû faire énormément de recherches pour trouver très peu d'informations. Ça n'a vraiment pas été facile de trouver ce que je cherchais. Ultimement, ma recherche la plus, fructueuse, celle qui a rapporté le plus, c'est quand je suis allé à l'Université de Montréal et je suis allé m'écraser 7 heures dans la bibliothèque pour trouver des vieux livres. Et quand je dis des vieux livres, je parle de livres dont les sources historiques, en fait, je recommence cette phrase-là, pas les sources historiques, mais que la pertinence du livre en tant que tel, je vais recommencer encore, beaucoup plus simple que ça. En histoire, il y a tout le temps quelque chose qu'il faut vérifier. Si vous faites un travail à l'université sur, je sais pas moi, l'Al-Andalus médiéval, et que vous prenez des livres dans votre bibliographie, donc des livres que vous allez utiliser pour étoffer votre recherche, qui datent de 95, vous allez vous faire taper ses doigts. Pourquoi? Parce que en 95 versus 2023, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'Al-Andalus et ceux de 90-95 sont probablement plus bonnes. Donc, on va vous encourager à prendre des recherches récentes, parce qu'évidemment, hein, la science historique, l'histoire, ça avance constamment. Donc, de se ramasser avec des livres qui sont très anciens, ça t'amène avec un biais, c'est qu'il y a probablement beaucoup de recherches qui ont été faites depuis, et en ce moment, tu utilises de l'information qui est désuète. La réalité, c'est que la majorité des sources que j'ai trouvées sur les dieux slaves et baltes, c'est des sources qui remontent justement dans les années 90-85 même. Donc, première chose à dire sur cet épisode, elle est majoritairement basée sur de vieilles sources, ce qui signifie que c'est peut-être pas tout à fait up-to-date, pour prendre l'anglicisme, ce n'est plus à jour. Le problème, c'est qu'il y avait tellement peu de choses que j'ai été obligé de prendre ce qu'il y avait, et ce que c'est ça que ça a donné? Ça a donné que j'avais des très, très vieilles sources sur le sujet. Donc, premier biais à savoir pour l'enquête, les sources datent. Maintenant, un autre aspect que je voulais vous mentionner, c'est qu'ultimement, au niveau de la recherche, pour trouver des liens sur des artefacts, c'est déjà complexe à la base, mais vous devez savoir que comme pour les Vikings, chez les Slaves, on a très peu de choses qui nous est parvenues par écrit. Donc, on a très, très, très peu d'informations sur le sujet déjà, et on a, en tout cas, je veux pas dire qu'il n'y a pas eu de recherche qui a été faite sur le sujet, probablement que dans le monde slave, c'est quelque chose de beaucoup plus connu. Il y avait beaucoup de sources en russe, mais malheureusement pour moi, je parle pas russe. Donc, ici, ou du moins dans les livres que j'ai eu accès, j'ai pas été capable de trouver une grande information, dans un premier temps, parce que, j'ai pas été capable de trouver des ouvrages très récents sur le sujet. Et, deuxièmement, on a très peu écrit sur la mythologie slave. Pourquoi? Parce qu'au Moyen-Âge, les Slaves, comme les Vikings, comme les Celtes, n'écrivaient pas leur histoire. Et ce que ça le fait, c'est que c'est les gens qui, en fait, avec l'installation du christianisme, qui ont commencé à mettre par écrit l'histoire de la mythologie slave. Donc, c'est des yeux externes. Et donc, on n'a rien vraiment à l'interne. Donc, ce sont les deux gros enjeux de cet épisode et je voulais que ça soit bien compris parce que ça va amener, évidemment, une grande marge d'erreur vu qu'on n'a pas l'information nécessaire. Maintenant, dernier aspect, cette enquête va être faite en deux temps. Dans un premier temps, on va répondre ultimement à la question de l'enquête initiale « Que peuvent signifier ces cercles sur la hache de Perun? » Et dans un second temps, on va s'intéresser à la relation entre la mythologie slave, la mythologie balte et la mythologie scandinave. Donc, ça va se faire en deux temps. Maintenant, Pastourelles et Pastoureaux, pour le premier aspect, on va enquêter sur ces cercles et maintenant, on se plonge. Comme on vient de le mentionner, il y a très peu de sources qui ont été écrites sur la mythologie slave. Ultimement, les Slaves eux-mêmes n'ont pas écrit l'histoire de leur dieu. Ce qui nous amène à un gros problème, c'est qu'on n'a pas de source. Et je pèse mes mots parce que j'étudie le monde scandinave, entre autres, surtout le monde de l'époque viking, et je suis habitué de travailler avec des peuples dont on n'a pas de source. Mais les Slaves, bah, sur les Mastouros, c'est un autre niveau. Si vous tapez sur Internet, vous voulez en connaître plus sur Odin, ça se fait relativement bien. Odin est un dieu qui est assez bien documenté, on a quand même beaucoup de sources sur lui. Mais sur Perun, j'étais flabbergasté, pour prendre le bon terme québécois, j'en avais aucune idée, j'étais abasourdi. Il n'y a rien. Même sur Internet, vous cherchez Perun, vous avez très peu d'informations. Le peu d'informations que vous avez, vous n'êtes même pas certain si c'est fiable. Des fois, ça a l'air d'être un peu croisé entre le fantastique, avec l'image de Perun dans Marvel, tu sais, pas quelque chose qui est basé sur la science historique. Donc, déjà là, on part avec un pied, les deux pieds dans la boîte, permettez-moi de le dire, parce que les gens n'ont pas écrit leur mythologie, les Slaves n'ont pas écrit leurs sources. Ultimement, ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer à voir apparaître des sources sur la mythologie slave au 10e et au 13e siècle. Donc, lors de la christianisation, là, on va commencer à écrire les dieux qui subsistent et surtout qui résistent aux christianistes. Donc, c'est des gens extérieurs, donc des gens qui n'étaient pas païens, qui ont écrit sur leur religion. Donc, il y a déjà une source de biais ici. Déjà là, hein, quand les chrétiens écrivent sur les sources païennes, on le sent qu'il y a un biais, c'est très clair, c'est considéré comme des dieux démoniaques, donc déjà là, on n'est pas impartial. Mais, on a quelques sources qui nous sont parvenues. Sauf que, ce qu'on sait, ultimement, c'est que, dans le monde slave, comme dans le monde scandinave du Moyen-Âge, de l'époque viking, pendant la christianisation ne va pas se faire pareil partout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va observer que dans les campagnes, comme dans le monde scandinave, la christianisation se fait très mal. En fait, des chercheurs russes montant jusqu'à l'URSS vont constater que dans les campagnes slaves, campagnes russes ici, ils vont réaliser qu'il existe un système de double foi combinant la foi chrétienne et la foi et des cultes païens. Donc, Pastourel et Pastoureau, comme on avait vu dans les épisodes sur les Scandinaves, une christianisation ne signifie pas, hein, parce que, en fait, je refais cette phrase-là, vous voyez dans un livre, christianisation d'un peuple à telle année, ça ne veut pas nécessairement dire qu'à cette année-là, prenons exemple en 1000, que toute la population est officiellement convertie. Hein, ça fait des millénaires que les Slaves sont pagans. Pas des siècles, pas des décennies, des millénaires. Donc, c'est très, 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 très long avant que ça se perde. Et si le christianisme n'est pas capable de s'imbriquer solidement et d'avoir un contrôle général des campagnes, ce qu'elle n'aura pas durant le Moyen-Âge, eh bien, c'est très, 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 très difficile pour elle d'effacer, d'enrayer les anciennes religions, les anciens rites. Donc, en passant, petite parenthèse, ce que je viens de vous citer, ce que je vais citer la majorité du temps dans cet épisode vient de l'ouvrage de Boris Rybakov. C'est un ouvrage absolument génial et un des seuls que j'ai été capable de travailler avec pour trouver l'information. Donc, évidemment, comme d'habitude, toutes les sources vont être dans la fin de cet épisode. Maintenant, en ce qui a trait les sources qui parlent des dieux slaves. Une des plus importantes, c'est les chroniques des temps passés, aussi appelées chroniques de Nestor, un document qui a été ultimement écrit en vieux russe et qui a été en fait écrit par un missionnaire byzantin qui était venu convertir les Slaves. Et dans les chroniques des temps passés, il raconte justement les conversations qu'il avait avec Vladimir Ier et cette espèce de tentative de le convertir au christianisme alors que ce dernier, comme il est raconté dans le texte, croyait à Perun et qu'il avait élevé des idoles à ce dernier. Donc, ça nous raconte un peu le récit de la perspective du missionnaire pour convertir le roi Vladimir. Et il va réussir ultimement. Vladimir va se convertir au christianisme et abandonner les idoles. Maintenant, les chroniques de Nestor nous donnent également quelques petits indices sur comment est-ce qu'on vénérait Perun. Mais là, Pastourelle et Pastoureau, avant de parler de comment on vénère Perun, je pense qu'on devrait parler de c'est qui Perun. Dans un premier temps, on est rendu là, je pense. On a vu les enjeux des sources, la complexité de l'information. Maintenant, sur le peu qu'on sait, c'est qui Perun? Perun Pastorel et Pastoureau, c'est le dieu, en fait c'est le chef du panthéon slave. Ce dernier est représenté comme un vieil homme avec une moustache très fournie. Les chroniques de Nestor nous donnent une information assez intéressante. Souvent, la moustache était représentée en or. Donc, quand même intéressant, semble avoir un aspect, bon là ça peut être plein de choses, mais on l'a vu entre autres que dans le monde germain, hein, entre autres avec les Mérovingiens et même entre autres, ça s'étend pas juste aux Mérovingiens, là, mais ce qui semble être un aspect de la culture mais, germanique, on avait parlé de la Mund. La Mund qui était en sorte qu'un homme, son pouvoir était dans ses cheveux, dans sa pilosité. Hein, j'avais mentionné, je pense, là j'ai un blanc de mémoire, mais je pense que c'est Charlemagne qui mettait des poils de barbe dans son sceau lorsqu'il il scellait des lettres. Mais vous m'excuserez, je me souviens pas si c'est exactement Charlemagne, mais la pilosité, dans le monde germain, c'était considéré pour les hommes quelque chose de sacré. Donc, est-ce que la moustache fournie chez les Slaves est aussi un parallèle, hein, parce que le monde slave est connecté au monde germain? Est-ce que c'est un échange culturel? Est-ce que c'est un partage? On sait pas, mais fait intéressant, la moustache de Perun était souvent portrayée en or sur les idoles. Donc un vieil homme avec une moustache là, bien fournie, là, un homme bien velu, pardonnez le terme. Et dans le fond, il est associé à la foudre, à la protection des guerriers. Et ultimement, hein, par défaut, protection des guerriers, il est associé également à la guerre. Ah tiens, pastourelle et pastoureau. Si je vous nomme un dieu qui est associé à la foudre, à la protection et à la guerre. Ça vous fait-tu penser à quelqu'un, ça? Mettons, je vous donne un indice. Mettons, je vous dis mythologie scandinave. Un dieu qui est associé à la foudre, à la protection et à la guerre. Et oui, pastourelle et pastoureau, Thor. Thor est associé, ultimement, à la foudre, à la protection. Hein. C'est le dieu qui a décidé de prêter serment, ultimement, de protéger, en fait, Midgardur, donc la terre du milieu, là, où on est présentement, là, la planète. Là. Il a décidé de protéger Midgard des géants. Donc, ultimement, Thor, c'est dû à la protection. Maintenant, quand je vous parle du dieu Thor, hein, le dieu Thor, ultimement, à quoi vous pensez? La première chose qui va vous venir en tête, sûrement, c'est la foudre. Hein? C'est le dieu de la foudre, Thor, avec son fameux marteau Mjolnir. Même si vous connaissez pas la mythologie nordique, vous l'avez vu sur des shows à la télé, comme les shows de Marvel. Et d'ailleurs, pastourelles et pastoureaux, ne vous fiez jamais à Marvel sur quoi que ce soit pour la mythologie, ils ont rien compris. Premièrement, Thor n'est pas blond. Ok, je sais pas c'est quoi cette image-là de Thor qui est blond, mais Thor, dans toutes les sources historiques, c'est très clair, il est roux. Mais roux carotte, là. Thor, là, il est roux. T'as pas plus roux que ça dans tous les neuf mondes. Ok, Thor est décrit là, quasiment qu'une chevelure de feu. Là. T'as pas plus roux que lui. Donc, fait qu'il me gosse tout le temps un peu. Mais c'est pas grave, c'est pas pertinent. C'est juste pour vous dire que, bon, Thor est associé à la foudre comme Perun. Et Thor est associé à la guerre également. Évidemment, c'est le dieu de la protection. Donc, évidemment, on l'appelle quand on veut se battre. D'ailleurs, les Romains considéraient que Thor était plus proche de Jupiter que Odin lui-même. Hein, les Romains considéraient que Thor ou Tyr était plus proche de leur figure de chef de panthéon qui eux autres étaient Jupiter et considéraient que Odin était peut-être plus proche de Mercure parce qu'il était associé à la mort beaucoup. Et ultimement, un autre fait intéressant, Thor était souvent invoqué dans les mariages. Parce qu'étant donné qu'il protège, bon, on veut qu'il protège les nouveaux époux. Donc, pour vous donner une idée à peu près, mais il y a beaucoup de similarités entre Perun et Thor. Gardez ça en tête parce qu'on va y revenir dans le deuxième aspect de cet épisode, pardonnez-moi. Continuons. Maintenant, je vais vous parler du culte. Le culte, bon, c'est ça qu'on sait ultimement, entre autres, il y avait des idoles. Donc, il y a eu des idoles, ça c'est assez standard, mais c'est pas toutes les religions qui en ont, mais bon, il y avait des idoles aux dieux, Perun. On sait qu'ils faisaient ultimement, les Slaves, des sacrifices au bois et aux puits, aux rivières également. Donc, quand quelque chose d'assez standard dans le paganisme ancien, la raison c'est que c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais le paganisme est très associé souvent, surtout... Ok, là, je vais faire attention à ce que je veux dire, là. Parce que je vais dire une niaiserie. Ok, on va recommencer à zéro, faites comme si j'avais rien dit. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'étant donné que les religions païennes, surtout dans le nord de l'Europe, sont très, très associées aux éléments naturels, aux forêts, aux rivières, les dieux ont des représentations qui se rapprochent souvent, ultimement, des éléments ou des lieux. On a un dieu pour les forêts, on a un dieu pour le ciel, on a un dieu pour la foudre, etc. Ce qui fait en sorte que c'est tout le temps très proche, on dirait, d'un animisme en même temps, d'une conception que, bon, il y a un âme un peu à toute chose. La forêt est vivante, pas juste au sens qu'elle respire, mais au sens qu'elle a comme une âme, elle également, qu'il faut faire des sacrifices à la forêt pour que la forêt donne. Hein. Donc, il y a ce rapport-là. Et c'est très, très présent chez les Slaves. D'ailleurs, les Slaves vont faire des sacrifices humains. On avait vu, on a longtemps cru que les Vikings faisaient des sacrifices humains. On a longtemps cru que les Celtes, surtout, faisaient des sacrifices humains. Cependant, on sait maintenant que les Celtes, c'est entièrement faux. La raison pourquoi il y a eu un mélange, c'est qu'ultimement, on a trouvé beaucoup de scènes, des temples avec des gens morts qui semblaient avoir été sacrifiés, qui semblaient avoir été empalés. Mais en vérité, c'est que dans la conception des Celtes, ultimement, un Celte ne peut pas mourir à terre, il doit mourir debout. Donc, les guerriers qui étaient morts au combat, on les empalait en signe d'honneur pour dire qu'ils étaient morts debout. Et ces gens-là n'étaient pas sacrifiés, ils étaient simplement morts au combat. Donc, ça l'avait amené, dans un premier temps, à croire que les Celtes faisaient des sacrifices humains. Mais maintenant, c'est pas mal accepté qu'ils n'en faisaient pas ultimement. Encore une fois, le monde celte, c'est immense. Ça veut pas dire qu'à certains endroits, ils n'en faisaient pas. Ça veut pas dire qu'on n'a pas trouvé encore, mais qu'ils auraient fait aussi des sacrifices humains. Mais maintenant, ça semble avoir un peu pris, avoir été mis de côté cette théorie-là à cause des dernières recherches. Chez les Vikings, il y en avait, mais il n'y en avait pas beaucoup. Ça semble être assez particulier, surtout que dans la conception mythologique viking, un sacrifice ne peut pas être quelque chose que t'imposes à quelqu'un. Les dieux ne veulent pas d'un sacrifice que l'individu ne voulait pas donner. C'est un concept qu'on va revenir beaucoup dans la saison 4, quand on va s'intéresser beaucoup aux vikings, mais il y a toute cette conception chez les vikings de se sacrifier pour une cause. C'est Odin, pour vous donner une idée, se sacrifie en se pendant pendant 9 jours, au Yggdrasil pour découvrir les runes. Si vous lisez, ultimement, les sagas, c'est mentionné de mémoire, c'est dans Avamol. Odin va dire que Odin s'est sacrifié pour obtenir la connaissance. Je me suis sacrifié moi-même à moi-même. Donc, il fait le sacrifice de se pendre et de s'empaler avec une lance. Hein. Il fait pas juste se pendre, il s'empale avec une lance en plus pour obtenir la connaissance. Il y a une femme dans une saga que j'ai complètement oublié le nom, vous m'en excuserez, elle mentionne que à cause que son mari est mort, elle veut plus manger et elle dit « Je ne mangerai plus aucun repas jusqu'à temps que je mange au banquet de Freya. » Donc Freya, la déesse de la magie, de la guerre et de la sexualité, entre autres. Et il est raconté qu'elle va, dans le fond, elle va mourir de faim et qu'elle va rejoindre le banquet de Freya. Elle se sacrifie pour obtenir le droit de manger au banquet de Freya. Aussi, un autre exemple avec le Valhall, donc le Valhalla, que vous avez peut-être entendu dans sa version francisée. Le Valhall, le Hall des vaincus, ben c'est tout le même principe, hein, c'est de se sacrifier au combat pour obtenir le droit de faire partie de l'armée de Odin. Donc on se sacrifie volontairement, hein, c'est pas qu'on est tué par accident et on voulait pas réellement se battre. On prend la décision consciente de se battre et de mourir pour un dieu, on se sacrifie pour lui. Donc toute cette conception-là de vouloir se sacrifier pour obtenir quelque chose. D'ailleurs, les dieux sacrifient également beaucoup de choses dans la mythologie nordique. Par exemple, le dieu Tyr, le dieu de la guerre et de la justice, et entre autres de la bravoure. Ce dieu, je sais que c'est mélangeant, là, parce que Tyr ressemble beaucoup à Thor, là. C'est probablement pour ça que les Romains mélangeaient un peu les deux, là. Mais si vous voulez une distinction claire, voyez Thor un peu comme le dieu bienveillant qui veut veiller sur les humains, mais qui a un caractère très impulsif et qui peut virer furieux très rapidement. Tyr, c'est un dieu plus diplomatique, axé sur la justice, mais qui est également axé sur le sacrifice. Ultimement. Donc le sacrifice de soi, le sacrifice ultime, l'honneur un peu, c'est un dieu qui est réputé pour être justement, c'est un peu cocasse, mais beaucoup disent que Tyr aurait fait un meilleur chef du panthéon pour l'ordre cosmologique du monde scandinave que Odin lui-même, parce que Tyr est quelqu'un qui respecte ses serments, etc. Donc, on recommence, le sacrifice, Tyr va sacrifier sa main dans la gueule de Fenrir pour sceller la bête. En se faisant même, Tyr sacrifie une partie de son corps et par ce sacrifice, ça le confirme un peu comme étant le dieu de la bravoure parce qu'aucun autre dieu voulait s'approcher de Fenrir. Odin va sacrifier son œil à la fontaine de Mimir, une fontaine dont il va boire, et cette fontaine va lui donner une connaissance inimaginable. Donc, dans le fond, pour la connaissance, Odin va sacrifier son œil, il l'obtient suite à un sacrifice. Il y aurait d'autres exemples, mais là, je veux pas m'éparpiller trop vite là-dessus. Mais le sacrifice chez les Scandinaves, si c'est pas quelque chose que la personne veut, normalement, il n'est pas accepté, il n'a pas de valeur, parce que la personne doit sciemment vouloir se sacrifier pour obtenir quelque chose. Sauf que, maintenant, ça c'est dans le concept mythologique. Dans la pratique, est-ce que la personne avait donné ça OK? Moi, j'ai des petits doutes, mais ça veut pas dire. Hein. Les gens croyaient à ça, et clairement, les gens acceptaient de mourir pour ordonner au combat, donc ce sacrifice-là, on sait qu'il était souvent consentant, mais bon, les sacrifices dans un temple, est-ce qu'ils étaient tout le temps consentants? Dur à dire. Aussi, un autre fait très intéressant, Odin va pas gêner à tromper des gens pour qu'ils sacrifient pour lui alors que les gens voulaient pas. Odin est un dieu fourbe, donc ça veut pas tout le temps dire que les dieux acceptaient que les sacrifices ultimement consentants. Maintenant, fin de la parenthèse pour le sacrifice chez les Scandinaves, maintenant chez les Slaves. On a peu d'informations en règle générale, on sait qu'il y avait des sacrifices humains. Est-ce que ça avait des origines un peu, justement, des influences peut-être scandinaves, où la personne devait être consentante? Aucune idée, mais on sait qu'ils pratiquaient le sacrifice humain. Donc, je sais pas si c'était des prisonniers de guerre, par exemple, comme chez les Aztèques, qui capturaient souvent les Mayas pour nourrir le soleil. Est-ce que c'était dans le même principe, dans le sens qu'ils capturaient les ennemis et les sacrifiaient à leurs dieux en signe de tribut? Est-ce que c'était les individus eux-mêmes qui devaient décider ultimement qui voulait se sacrifier, ou ultimement on prenait quelqu'un, un esclave ou peu importe, pour plaire les dieux, que ça n'impliquait personne à l'externe. Donc on sait pas, mais il y avait des sacrifices humains. Donc déjà là, ça nous dit ultimement un petit aspect. Et qu'il y avait aussi plusieurs idoles. Bon, il y avait Perun, il y avait entre autres Vélès. On va moins parler de Vélès et des autres dieux slaves, vous allez savoir pourquoi sous peu. Mais Vélès, là, c'était un dieu associé au commerce. Maintenant, passons à les Pastoureaux, une autre source. Oh, d'ailleurs, juste un instant, avant qu'on passe, Vélès aussi, hein, j'ai mentionné qu'il était associé au marchand, mais il est associé évidemment à la richesse, au bétail, donc c'est plus large que ça, là, mais bon, on va y revenir. En fait, on va pas trop s'attarder à ces dieux-là, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Passons à les Pastoureaux, l'autre source qu'on va parler, c'est le sermon de Saint-Grégoire, le sermon sur les idoles. Et ça nous donne quelques informations sur le culte slave, ultimement, avant Perun. Et là, Pastoureux les Pastoureaux, je vais vous amener très très loin en arrière, parce que ces cultes-là qu'on va voir maintenant, avant Perun, étaient probablement présents depuis des millénaires. Donc, c'est très dur premièrement à vérifier, c'est excessivement dur à vérifier, il faut croiser ça avec des sources archéologiques, puis étant donné qu'on n'a aucune autre information, bon, on doit se baser un peu là-dessus. Mais ultimement, ce qui est mentionné, c'est que les Slaves, au tout départ, ne vénéraient pas Perun. Et c'est ce qu'on va se rendre compte ultimement avec les cercles, on garde toujours en tête, c'est les cercles qu'on cherche, c'est pas dans Perun qu'on va trouver notre réponse. Parce que Perun, Pastoureux des Pastoureaux, c'est un dieu très récent quand les chrétiens arrivent. C'est un dieu que ça fait pas tellement longtemps qu'il est intégré dans la religion slave. Les Slaves, dans un premier temps, pendant des millénaires, encore une fois, c'est dur à prouver, mais ultimement, auraient vénéré, selon l'auteur, des fées et des vampires. Ultimement, il y a eu un culte des vampires et des fées où les Slaves, ultimement, faisaient des sacrifices aux deux. Attends, des vampires et des fées... Oui, Pastoureux les Pastoureaux, ça aurait été une espèce... Ben, en fait, ça aurait une religion qui aurait été basée sur la dualité. Les forces du bien, de la bienfaisance, de l'abondance, les fées, et celles du mal, et de tout ce qui est malsain, maladie, etc., les vampires. Là, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait un sacrifice aux deux dans ce cas-là? Eh bien, c'est pour garder les vampires en respect. Donc, en fait, si on fait des sacrifices aux vampires, ils vont nous laisser tranquilles. Donc, il y aurait, et dans le même optique, on fait des sacrifices aux fées pour garder leur bonne grâce, avoir fécondité, abondance et avoir leurs bonnes œuvres. Donc, dans un premier temps, et là je vous remonte à des millénaires en arrière, les Slaves auraient eu une religion qui aurait été basée sur le peu qu'on sait d'une dualité entre des vampires et des fées. Perun n'est même pas dans le décor encore, là. Et il ne le sera pas avant un méchant bout. Parce que Pastoureux les Pastoureaux, avant même que Perun fasse son apparition, les Slaves vont faire une transition à un moment donné pour des raisons qu'on ignore, parce que encore une fois, on n'est pas capable de mettre une date là-dessus, ça en remonte encore et toujours à des millénaires en arrière, mais les Slaves vont passer du culte des vampires et des fées au culte du dieu Rod et du dieu, en fait, excusez-moi, et des Royanisti. Donc, ultimement, je m'excuse, j'ai peut-être massacré le mot, là. Mais Rod et les Royanisti, ça se traduit aux géniteurs et les génitrices au pluriel. Parce que les Pastoureaux, le culte de Rod, si vous cherchez sur Internet, c'est le dieu slave le plus ancien. Et ce dernier a des caractéristiques qui rappellent réellement un dieu monothéiste. Et c'est là que ça devient intéressant parce que les Royanisti, donc les génitrices, ça serait la transition de l'ancien culte des fées qui se serait intégré au dieu Rod. Donc, Rod serait comme un peu le dieu, le père, le créateur, le géniteur, et il y aurait les anciennes fées qui deviendraient les Royanisti, et ces dernières rempliraient à peu près les mêmes fonctions, fécondité, bienveillance, assurer des bonnes récoltes, etc. Et ce culte, pastourer les pastoureaux, va être extrêmement bien ancré dans les campagnes slaves. Et là, pastourer les pastoureaux, excusez-moi, on arrive au point culminant, si vous voulez, du premier aspect de mon enquête, qui est Perun. Perun, je m'excuse de la façon que je vais le dire, ça va en choquer plusieurs, mais c'est personne. Perun, le dieu, le chef du panthéon slave, n'est personne. Si vous regardez n'importe où sur Internet, ça va vous dire que le dieu le plus important, c'est Perun. Et Perun était effectivement le chef du panthéon pendant un très court laps de temps. Mais c'est pas lui que les Slaves vénèrent. En fait, Perun est vénéré majoritairement par la noblesse guerrière slave. Et donc, entre autres, la noblesse kievienne. Et ça fait que c'est un petit nombre de personnes qui ont un culte à Perun. Perun, pour vous donner une idée en échelle de temps, l'auteur Rybakov nous mentionne que le culte de ce dernier a dû être mis en place depuis quelques siècles maximum, voire même quelques décennies, pastourer les pastoureaux, avant que le christianisme arrive. Perun, c'est un dieu tout récent, là, c'est un dieu bébé. Il vient tout juste d'arriver et c'est une des raisons pourquoi on en parle si peu dans les sources. C'est parce que l'Église ne va pas avoir à se battre ben longtemps contre Perun. Perun est à peine intégré. C'est Rod et les Royanisti, pardonnez-moi, qui sont le réel problème pour l'Église. C'est ça que les campagnes vénèrent. C'est un dieu qui est ancré depuis des millénaires dans la culture slave. Et c'est lui qui va devenir le véritable courroux de l'Église, le véritable ennemi. Parce que Perun, ultimement, je répète, c'est personne dans la mythologie slave. Il est tout récent. Il a été important le temps qu'il a été, mais c'est tellement... Si on prend la mythologie slave sur son existence, c'est personne, Perun. Il vient tout juste d'arriver, pastourer les pastoureaux. Et là, ça nous amène à un problème. Moi, quand je suis parti sur cette enquête, moi, dans ma tête, Perun, c'était le chef du panthéon slave. C'était comme pas ça. Ça, c'était clair dans ma tête. Mais même ça, pastourer les pastoureaux, c'était pas bon. En fait, ultimement, c'est là que le problème arrivait. C'est que j'étais comme, bon, je cherche sur le dieu Perun parce que je veux essayer de savoir c'est quoi ces cercles. Et là, j'arrive à la conclusion que Perun, ultimement, c'est presque personne. C'est pas là que je dois chercher. Et que, bon, ça a été évidemment la noblesse qui l'a vénéré, qui a quand même été présent, mais qu'ultimement, bon, la signification de l'âge de Perun, d'où c'est que ça vient? Parce que, veux pas, c'est quelque chose de très très récent dans l'histoire slave. Et là, bon, de voir l'âge de Perun dans le monde scandinave, dans le monde slave, dans le monde balte, il y a rien de surprenant là-dedans. D'autant plus que, là, on regarde ce qu'on a trouvé au niveau archéologique, les haches de Perun étaient faites souvent en métal et souvent en ambre, qui sont des matériaux très dispendieux. Et qui a le monopole économique au Moyen-Âge? Ben, c'est les nobles. Et qui vénérait Perun dans le monde slave? C'est les nobles. Donc, c'est quand même pas sans surprise qu'on en retrouve pareil. Mais, du point de vue de la mythologie slave, ça change complètement ma perspective. Je cherchais le symbolisme, je le rappelle, de ces ronds, mais là, est-ce que je peux réellement chercher un symbolisme dans Perun si Perun est tout à fait récent? Donc, pastourer les pastoureaux, ça m'a amené à me poser d'autres questions et à continuer ma recherche, et c'est là que je vous amène ultimement. En passant, pastourer les pastoureaux, petite anecdote cocasse, ok? Une petite anecdote pour alléger le tout, là. En faisant mes recherches sur le monde slave, j'ai découvert qu'il y avait également un culte au feu qui était présent. Donc le feu sacré, une espèce de feu perpétuel qui était entretenu. Pastourer les pastoureaux, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode des invasions magyares, j'avais mentionné qu'il y avait un groupe turco-mongol qui avait rejoint les magyares à un certain stade, là, ma mémoire fait défaut, là, mais qui avait été en contact un avec l'autre et que les magyares avaient eux aussi un culte au feu. Maintenant, pourquoi je parle de cet aspect turco-mongol? C'est que c'était un peuple qui se déplaçait énormément et que, ultimement, aurait pu amener le culte du feu du zoroastrisme. Et dans cette conception, je m'étais dit, ah bien regardez, les Magyars avaient un culte au feu comme dans le zoroastrisme. Est-ce qu'il n'y a pas eu un échange à travers ce groupe nomade turco-mongol? Mais là, pastourer les pastoureaux, peut-être que j'ai dit, en fait, que mon hypothèse n'importe quoi. Parce que, ultimement, si les Slaves avaient déjà un culte au feu, il y a des bonnes chances que même les Magyars avaient été en contact. Ben, ils avaient été en contact bien avant, donc ont peut-être juste pris ce culte du feu des Slaves. Donc, comme quoi, c'est important de se poser des questions comme des hypothèses, et comme quoi, qui est important de se rendre compte, ultimement, lorsqu'on fait des recherches et de critiquer ses propres hypothèses. Mon hypothèse sur les influences zoroastrisme avec le Magyar, avec la civilisation Magyar, bon, est probablement, elle vaut probablement rien, parce que probablement que les Magyars ont peut-être, je dis bien peut-être, pris le culte du feu, non du culte du zoroastrisme, mais tout simplement des Slaves qui le côtoyaient et qui, ces derniers, vénéraient le feu. Donc, comme vous voyez, la religion slave est très complexe, c'est pas partout pareil, il y a plusieurs rites et religions, et ça c'est normal. Si on compare et qu'on transpose avec le monde viking, on remarque que les cultes aux dieux ils sont très différents d'une région à l'autre du monde scandinave. C'est normal, ce n'est pas une religion qui est centrifié autour d'un chef qui détermine la façon de faire le culte, de faire la prière, de procéder au rite. Tout le monde le fait un peu à sa façon, ce qui amène beaucoup de diversité dans les cultes et dans les rites. Mais bon, petit retour sur l'hypothèse que j'avais faite dans l'épisode des invasions magyares sur l'influence en fait du culte du feu qui aurait été amené peut-être par un groupe turco-mongol chez les Magyars, donc le culte du feu dans le zoroastrisme qui aurait voyagé à travers ce groupe et se serait rendu jusqu'aux Magyars. Mais visiblement, si les Slaves avaient déjà un culte au feu, il y a de maudites bonnes chances que les Magyars, qui les attaquaient régulièrement, qui évidemment c'est un peuple nomade, ont simplement pris le culte du feu par échange culturel de ces derniers. Donc, fin de la parenthèse, fait cocasse, ça reste à explorer, il n'y a rien de confirmé, mais je trouvais intéressant de le mentionner, que je pense pas que cette hypothèse-là que j'avais faite dans les invasions Magyars, l'épisode, valait quoi que ce soit maintenant. Maintenant, pour les pastoureaux, on retourne à la fameuse âge de Perun. Maintenant, on a découvert que Perun, ultimement, c'est pas un dieu si important. Ça m'amène à un gros problème, c'est maintenant les cercles, j'y cherche où? Parce que moi, j'essaie de trouver une relation avec Perun et ses fameux cercles. Et là, pastoureux les pastoureaux, c'est là qu'on va retourner encore plus loin en arrière dans le temps. Pastoureux les pastoureaux, je vous invite à me suivre. À me suivre dans le nord de la Russie. Je vous invite à me suivre jusqu'en Sibérie pour découvrir la cosmologie des Zevenki, ultimement, hein, la cosmologie du peuple qui vivait en Sibérie. Parce que les pastoureaux, dans la cosmologie Zevenki, il y a une omniprésence des cervidés. Comme l'auteur nous le mentionne, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Parce qu'ultimement, hein, en Sibérie, la chasse était si importante, un culte aux cervidés, c'est quand même quelque chose d'assez courant dans le monde de la chasse. En fait, dans la cosmologie Zevenki, il faut comprendre que le monde est divisé en trois. Il y a l'élan cosmique et la chasse céleste qui est fixée dans les étoiles. Il y a le monde intermédiaire, dans le fond, le monde dans lequel vous et moi on vit présentement. Et le monde des morts, le monde où vont les âmes après être décédées et où se retrouvent, entre autres, les esprits mauvais, les esprits maléfiques. Maintenant, parce que les pastoureaux, vous allez me dire, OK, Gabriel, on est en train de chercher les cercles qui apparaissent sur la hache de Perun. Pourquoi est-ce qu'on parle de cosmologie Zevenki? Suivez-moi, mes chers amis, on arrive à la potentielle réponse et la potentielle hypothèse qui est amenée. Parce que les pastoureaux, dans la cosmologie Zevenki, les étoiles, comme vous le voyez, ont eu une immense importance. Hein, la cosmologie céleste, hein, le cervidé, le grand cervidé, l'élan qui, justement, est figé dans les constellations, ainsi que la chasse céleste. Maintenant, parce que les pastoureaux, vous devez savoir que dans, la cosmologie Zevenki, bien avant, ultimement, que le christianisme s'installe, mes chers amis, la Grande Ourse, vous connaissez la constellation la Grande Ourse? Eh bien, elle était appelée à l'époque l'élan. Donc, cervidé, hein? L'élan. Et la petite ours était appelée le faon. Donc, le bébé du cervidé, hein? Le bébé de l'élan, c'est le faon. Et donc, pastoureux et pastoureaux, ça nous amène sur une théorie qui est assez intéressante. Parce que les constellations, ultimement, les étoiles, cette importance du ciel, ne pourrait-il pas être une représentation qui a été traduite sur l'âge de Perun? Les petits cercles, hein, ne pourraient-ils pas représenter de vieilles constellations qui étaient vénérées chez les Slaves? Et là, vous allez me dire, wow, Gabriel, un instant. Là, dans un premier temps, là, la cosmologie Zevenki, puis le monde slave, là, c'est quand même assez loin un de l'autre. Et là, pastoral et pastoraux, je réponds à ceci. Oui, bon, dans un certain temps, vous avez raison, la Sibérie, c'est quand même loin, mais ça reste quand même dans le monde slave. Veux pas, hein? Ça reste en Russie. Oui, la Russie, c'est immense, hein? C'est le plus grand pays du monde. Mais on a vu que les cultures se partagent. Mais je comprends votre scepticisme, c'est tout à fait normal. Laissez-moi vous donner un exemple. Si je vous dis, mes chers amis, pastoral et pastoraux, qu'on a retrouvé la représentation de cerf sous forme de divinité sur des œufs de Pâques dessinés en Ukraine. Ah ben là, soudainement, pastorel et pastoraux, on est directement en Russie, ultimement, qui viennent. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas poser l'hypothèse que les cercles qui apparaissent sur la hache de Péroun sont un héritage d'une ancienne croyance qui a été présente beaucoup plus longtemps que Péroun dans le monde slave, entre autres dans le nord de la Sibérie, mais on l'a vu entre autres, on a retrouvé ces cervidés célestes sur des œufs en Ukraine, donc ils se seraient promenés et qu'ultimement les cercles ne seraient pas des constellations. Et ça va pas du tout en opposition avec le concept que premièrement, Péroun n'a pas été un dieu très très présent très longtemps, donc il est juste intégré par la noblesse. Rhodes et Rhodes, le géniteur, c'est un dieu qui est associé au père et il se retrouve dans les cieux. Qu'est-ce qui se retrouve dans les cieux également, vous le savez? Les constellations. Donc, est-ce que c'est pas justement là, et en fait, là n'est-elle pas notre réponse? Et là, pastorel et pastoureau, je dois m'arrêter là, parce que c'était une des hypothèses que j'avais vues en lisant, et bon, j'avais besoin d'avoir plus d'informations que juste on pense que c'est des constellations parce que c'est des cercles un peu disparates, mais ultimement, en connectant ça avec la religion Evenki, avec la présence des cervidés et des cervidés célestes jusqu'en Ukraine, considérant que Rhodes est un dieu céleste qui vit dans le ciel, on peut voir que probablement la hache de Péroun a repris entre autres ses aspects cosmologiques et peut-être que ces cercles signifient entre autres certaines constellations, certaines peut-être qu'on connaît, moi je connais pas la carte des étoiles, peut-être que vous pourriez en reconnaître, peut-être c'est de nouvelles constellations, hein, veux pas, les gens avaient des croyances qui se sont étalées sur des millénaires et étant donné que la région est pas centrifiée, ben évidemment il y a plusieurs versions, mais est-ce que par exemple ces fameuses haches n'auraient pas pu ultimement reprendre ces cercles des constellations. Maintenant, pastorel et pastoureau, ça conclut le premier volet de cet épisode. C'est ça, ultimement, l'hypothèse. Donc, je vois ici certaines corrélations logiques. Il est possible, c'est plausible de dire que peut-être les cercles sur la hache de Péroun sont des constellations. Et là, pastorel et pastoureau, j'aimerais vous amener sur le deuxième aspect de cet épisode qui est la connexion entre les différentes religions. Je vous explique. J'ai pas pu m'empêcher, si vous regardez là, la hache de Péroun, vous regardez toujours le premier nain. Je peux pas m'empêcher de me dire, merde, ça ressemble énormément à ce que va devenir un Mjolnir, ultimement. Il y a clairement une influence, et on l'a vu, c'est quelque chose de très 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 normal. Et le fait que Péroun soit un dieu extrêmement récent, je peux pas m'empêcher de me demander si ça avait pas été un emprunt, peut-être, de leur voisin, qui était probablement Thor, ou, on va le voir, des dieux baltes. Et là, pastorel et pastoureau, maintenant qu'on a mis une hypothèse possible, hein, c'est pas une certitude, mais une hypothèse. J'aimerais qu'on se plonge sur l'aspect des connexions religieuses et peut-être, en fait, d'expliquer un peu ensemble la possibilité de l'avenue du dieu Péroun. Pourquoi est-ce qu'il s'est rendu si récemment dans le monde slave? Donc, pastoral et pastoureaux, on commence la deuxième partie. Let's go! J'espère que vous êtes en forme. On continue. Je sais que c'est un long épisode, mais je vous jure, ça vaut la peine. Restez jusqu'à la fin. Je vous jure, c'est intéressant. Pastoral et pastoureau, je vous amène maintenant dans le monde balde. Premièrement, je vous invite à regarder le deuxième lien vers la deuxième image pour voir la hache de Ukko. Ukko, pastoral et pastoureau, c'est le dieu finnois de la foudre. Il possède un marteau. Très grosse similarité avec Thor, on le voit déjà. Je vous mets la hache de Ukko, et là je vous invite à regarder le troisième lien. Le marteau de Mjolnir, en fait, le marteau de Mjolnir, mais le marteau de Thor, hein, le Mjolnir. Regardez à quel point ça se ressemble. Clairement, on voit qu'il y a une influence. Et si on regarde la hache de Péroun, qu'on regarde la hache de Ukko, donc dans le monde balde finnois, hein, on va le voir, c'est pas le même dieu dans la région Baltique et en Finlande. Mais quand même, on voit une similarité très, 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 très proche entre la hache de Perun, la hache de Ukko et le marteau de Thor Mjolnir. Et en fait, j'irai plus loin que ça, je serai encore plus arrogant, mais j'imagine que vous devez quand même arriver peut-être à la même conclusion. Si on regarde les trois artefacts, on se rend compte de la ligne. Là. Je veux dire, il y a clairement une influence entre les trois, là. Surtout, excusez-moi, la hache de Ukko, là, mais on est à deux doigts d'un Mjolnir, là. Mais il y a clairement une influence entre les trois. Et en partant du monde balte, on va peut-être répondre un peu à cette question. Alors, je vous invite à me suivre et je vous amène avant le Moyen-Âge, Pastourelle et Pastoureau, mais cette fois-ci, pas des millénaires en arrière. Pastourelle et Pastoureau, au 2e et au 5e siècle de notre ère, c'est un âge d'or dans le monde balte. Dans le monde balte, en ce moment, là, ça va super bien. Le climat politique s'est calmé. On a un système, justement, qui ressemble un peu au système féodal qui s'installe en Europe au 11e siècle, où, justement, les choses se pacifient un tant soit peu, et ça permet un essor économique monumental. Et les Baltes, ils contrôlent quelque chose, c'est la route du métal. Vous connaissez la route de la soie, pardonnez-moi, eh bien, les Baltes, eux, ont le plein contrôle de la route du métal. Et ces derniers, ultimement, exportent, importent, font tout. OK? Ça va vraiment super bien d'un point de vue économique. Et souvenez-vous de ça parce que ça va être vraiment important pour ce qui suit. Maintenant, on sait que les Baltes, en plus d'avoir des avancées métallurgiques extrêmement avancées, ces derniers ont une grosse production d'ambre également qui est disponible. Et là, mes chers amis, tiens. L'âge de Perun, je vous avais dit que c'était fait dans quel matériau? Souvent, c'est fait en métal ou en ambre. C'est également fait en d'autres métaux, hein, métaux fer, bronze, entre autres. Mais ça, c'est toutes des choses que, justement, dans le monde baltique, les métaux, ça va bien, hein? Donc, et l'ambre aussi, ça va bien. Et donc, on arrive à une petite... Bah, c'est quand même cocasse, hein? Les haches de Perun sont faites dans des matériaux que les Baltes produisent en grande quantité. Juste comme ça. Aussi, sachez-le, hein, les haches de Perun étaient aussi faites en os, il y avait d'autres matériaux, probablement c'était même fait en bois, mais c'est juste que le bois ça se conserve mal, donc on n'a peut-être pas retrouvé autant de traces, ou on en a retrouvé, je les ai juste pas vus, ça se peut fort bien également. Mais, fait cocasse, fait intéressant, ok, les matériaux dans lesquels les haches de Perun sont faits, les Baltes en vendent beaucoup de ces matériaux bruts-là. Et qui sait, peut-être qu'ils faisaient même eux-mêmes, mais ça, j'ai pas trouvé d'information qui mentionnait que les artisans faisaient les haches de Perun puis ils exporteraient, mettons. Mais c'est possible, hein, il y avait des bonnes avancées métallurgiques et les Baltes avaient également des orfèvriers, des forgerons, du travail d'orfèvre, pardonnez-moi, qui était incroyable, donc, je veux pas, c'est fort possible. Mais là, c'est des théories. On arrête là et on continue. On remarque également que les Baltes, pendant ce temps-là, ils font beaucoup de commerce avec le monde germanique et le monde romain. Ah ben, tabarouette! C'est drôle parce que, là, si on regarde, bon, ils ont beaucoup de métal, ils font beaucoup de commerce avec les Germains puis les Romains. Germains, OK, il y a des échanges culturels qui sont avec les Germains. Mais c'est drôle parce que les Germains, ils ont une grande proximité avec la mythologie, entre autres, scandinave. Encore une fois, gardez ça en tête, on va y revenir plus en détail quand on va parler de la mythologie baltique. Vous allez voir, ça va être très criant, je vous garantis que vous allez comprendre. Mais il y a des échanges, culturels, et en plus, ben, si justement ils contrôlent la route du métal, ben, ils échangent avec beaucoup de gens. Donc, entre autres, une grande partie, ils vont avoir une connexion avec le monde slave également, ils sont juste à côté. Et donc, là, ça devient très intéressant sur un aspect mythologique. Je vous explique. Dans le monde baltique, vous devez comprendre que le monde est divisé en trois, ok? Le monde est divisé entre trois types de cieux, ok? Puis là, je m'excuse, je vais être vraiment honnête, quand je lisais l'ouvrage de M. Rybakov, j'ai eu un peu de misère à comprendre. La cosmologie baltique, là, je vais être vraiment honnête, là, je pensais que la cosmologie scandinave, c'était compliqué, mais elle, je suis très à l'aise et je la comprends. Celle des Baltes, accrochez-vous, ok? Ben, c'est pas super facile. Le monde est divisé en trois cieux. Le ciel diurne, qui est un ciel blanc, un ciel nocturne et un ciel rouge qui est associé à l'aurore. Ces trois cieux représentent des niveaux un peu cosmologiques, ok? Le dieu du ciel nocturne, il s'appelle Patolo. Ce dieu est en fait représenté comme un vieillard funèbre avec un regard malveillant, pour citer ici l'auteur. Là. C'est vraiment là, le dieu des enfers, si vous le voulez. On a ensuite Perkuno. Perkuno, retenez ce nom parce qu'on va y revenir beaucoup. Perkuno, c'est un dieu qui est représenté comme un adulte avec une couronne de flammes. Ce dernier représente, si vous voulez, le ciel en aurore, justement. Là, le ciel le dieu de l'espace médian, le ciel qu'on observe en jour, le dieu qui est, si vous voulez, là, je fais un rapprochement, qui représente notre espace à nous, la Terre comme on la conçoit. Et on a ultimement le ciel d'urne qui est rempli par le dieu Potrimpo. Je le prononce tout croche. Potrimpo, oui, c'est ça. Potrimpo, qui est un jeune homme joyeux, couronné d'épis, qui représente, tu sais, le ciel dur, qui représente un peu, si vous voulez, par extension, le paradis. D'accord? Maintenant, je sais que c'est compliqué, je sais que c'est un petit peu spécial, mais ce que vous devez comprendre ici, c'est que premièrement, c'est intéressant de voir que le ciel, ultimement, je vais faire un gros parallèle, mais les cieux, peut-être éventuellement les étoiles, c'est quelque chose qui est assez récurrent chez les Baldans. Du moins, les cieux le sont, c'est clairement très présent. Et là, Pastourelle et Pastoureaux, rassurez-vous, ça c'était le bout très compliqué, on va aller dans un bout beaucoup plus simple. Je veux vous parler de Perkuno. Perkuno, c'est l'équivalent de Uko chez les Baltes, et en lituanien, pardonnez-moi, Perkuno s'appelle Perkunas. Et pour le bien, je vais utiliser le terme Perkunas, mais sachez-le, Uko, Perkuno, Perkunas, c'est toute la même personne. Je vous décris le dieu Perkunas, et on va regarder si ça nous fait pas penser à un dieu. Perkunas est le dieu ultimement qui est représenté, qui ressemble beaucoup à Perun. Ah d'accord, c'est un dieu qui partage des caractéristiques que Perun possède. Il a un chariot tiré par deux boucs. Ah tiens, c'est drôle. Il y a un autre dieu chez les Scandinaves qui a un chariot tiré par deux boucs. Ah mais c'est drôle aussi parce que ce dieu-là ressemble aussi à Perun. Ouais, Thor a également un chariot tiré par deux boucs. Quand même un drôle d'adon, hein? Perkunas a un marteau ou une hache, ça dépend des sources, qui lance et qui revient dans sa main. Ah tiens, tiens, tiens! Si je vous demande un dieu scandinave qui a un marteau qui peut lancer et qui revient dans sa main automatiquement, ça vous fait-tu penser à Thor, mettons? Ouais, c'est quand même une petite ressemblance, hein, quand même, c'est assez particulier, c'est présent. Maintenant, Perkunas est décrit comme un dieu ayant une force extraordinaire. Ah, c'est drôle, dans la mythologie nordique, il y a un dieu aussi qui est décrit avec une force extraordinaire, justement, là, qui commande les éclairs, puis qu'il est un demi-géant, puis qui est super puissant, puis qui va se battre contre Jormungandr au Ragnarok. C'est Thor. C'est quand même particulier, hein? Il protège, Perkunas protège les humains des démons, des mauvais esprits, entre guillemets. Ah, c'est drôle, parce que je peux pas m'empêcher de faire le parallèle. Thor protège les humains des géants. C'est quand même particulier. Il y a quand même une petite ressemblance, pareil, là. Ici, je pense qu'on peut y aller en toute tranquillité d'esprit. On n'aime pas ça assumer ad medievum internum, on aime les hypothèses, parce que quand on fait de l'histoire ancienne, on n'est pas sûr de grand-chose. Mais je pense qu'on peut être confortable pour dire que Perkunas pis Thor, c'est pas mal la même divinité avec quelques différences. Après, on va le voir, entre autres, Perkunas est associé au feu, alors que Thor, lui, est associé à la foudre. Mais Uko, lui, le dieu balte finnois, lui, est associé à la foudre. Donc, Pastourelle et Pastoureaux, clairement, il y a eu un échange culturel à quelque part. Là, on s'entend, là, c'est littéralement la même chose. C'est vraiment une divinité qui se ressemble beaucoup. Et là, Pastourelle et Pastoureaux, je vous le mentionnais, fait intéressant, il est associé au feu. Et on entretenait un feu perpétuel en son nom. Ah, c'est drôle, l'idée du feu, puis de l'importance du feu, on avait vu un peu dans des coins dans le monde slave, le feu était très important, hein? Il y avait un feu qui était allumé de façon perpétuelle, hein? c'est drôle, hein? ça se partage, là. Ça se rejoint. Fait hyper intéressant, Pastourelle. Il y a des missionnaires qui ont dû étouffer des feux à Perkunas en 1583. Pastourelle et Pastoureaux, on a dépassé le temps du Moyen-Âge. On s'en va tranquillement pas vite au 17e siècle. Je sais pas si vous vous rendez compte, là, mais on vénérait Perkunas, le dieu de la foudre, païen, l'ancien dieu, dans le monde baltique, jusqu'au 17e siècle à peu près. C'est pas une christianisation qui a mal fonctionné, c'est une christianisation pas faite. C'est complètement fou! C'est dans les annales jésuites! C'est eux qui ont dû les arrêter, puis ils racontent qu'ils ont protesté parce qu'ils craignaient justement qu'en éteignant le feu perpétuel à Perkunas, leur dieu allait geler. Le culte païen est pas parti dans le monde balte, là! Je sais même pas si on peut dire que la christianisation s'est réellement faite, là! On parle pas d'un système à double foi, comme les chercheurs russes mentionnaient quand ils étudiaient le monde slave dans les campagnes. Ils se rendaient compte que les deux fois avaient un peu subsisté en cohabitation, christianisme et ancienne religion païenne. Là, on est dans un autre monde, dans le monde balte. Là. En fait, je peux pas m'empêcher d'être excité. Je m'intéresse beaucoup aux anciennes religions. Et ultimement, bon, veut pas, le christianisme a fait un sacré beau travail pour les éteindre. Ils ont vraiment bien réussi leur assimilation. Mais là, c'est pas fait, là. C'est pas fait du tout, là. C'est incroyable. Donc, pour vous donner une idée, Seigneur, la religion balte, elle a survécu longtemps. Et je pouvais pas m'empêcher de vous en parler. C'est hyper intéressant. Maintenant, pastoral et pastoraux, vous voulez d'autres similarités avec la religion scandinave? Quand je parle de religion, on parle toujours de la mythologie scandinave. Mes chers amis, j'aimerais vous raconter un petit texte qui a été écrit va nous décrire un peu le dieu Perkunas. Donc, ce texte est une forme, ultimement, c'est un poème, ça ressemble énormément aux sagas, ça me le rappelle beaucoup. Dans cette version, ultimement, on appelle le dieu Perkunas Perkons, qui est un autre langage slave, là, je me souviens plus exactement c'est lequel, mais étant donné qu'il y a une belle mosaïque linguistique dans le monde balte, j'ai juste pris Perkunas pour être constant, là, je veux pas toutes les énumérer, là, mais c'est le même dieu. J'ouvre les guillemets et je cite. « Le forgeron forge dans le ciel. Les charbons tombèrent dans la Dogava. J'entendis mon châle. » De l'argent tomba pour moi. Je forgeais une épée à 9 lames. Je tranchais la tête du diable en 9 morceaux. Mes habits bruns furent aspergés du sang du diable. Je demandais à ma mère où il fallait les laver. Cherche un bras de fleuve avec 9 sources. Pastorelles et pastoraux, qu'est-ce que j'ai dit à propos du chiffre 9 au début de l'épisode? C'est un chiffre sacré dans le monde scandinave. Et là, ça se retrouve dans un texte du monde balte qu'on voit clairement qu'il y a une influence chrétienne. D'ailleurs, le fameux dieu du ciel nocturne va être associé au diable par la suite. Donc clairement, il y a quand même une influence. Mais on voit très clairement avec le bout avec les jésuites que c'est pas fait du tout. Là. Mais quand même, on peut voir avec l'appellation du diable. Et le chiffre 9 qui revient 3 fois. Donc déjà là, on peut voir que clairement, il y a une connexion. T'sais, veux pas, il y a eu un emprunt. Le dieu, premièrement, Perkunas, ressemble vraiment au dieu Thor, il ressemble au dieu Perun. Et c'est drôle, parce que la hache de Perun ressemble un petit peu à la hache de Uko, qui est dans le fond le Perkunas, mais balte. Balte, pardonnez-moi, finnois. Et c'est drôle, parce que le marteau de Thor, Mjolnir, ressemble pas mal à la hache de Uko. C'est un peu particulier, hein? Ça se connecte. Et là, ce qui est intéressant, pastoureux et pastoureux, c'est qu'à propos de la hache de Perun, en observant un blog, je vais faire attention parce que les blogs sont toujours quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. Et là, j'ai dit un blog, mais là, je m'en rends compte en regardant ma source, c'est pas un blog du tout. C'est une organisation qui fait ultimement des recherches historiques et qui cite leurs sources. Donc, toutes les sources sont citées. Et je vais citer ici M. Thomas Vlasati. Je suis vraiment désolé si j'ai massacré votre nom. Mais qui a fait un excellent regroupement d'informations sur la hache de Perun. Et il nous mentionne dans le début de son texte que appeler la hache de Perun la hache de Perun, c'est une erreur. Ultimement, on devrait appeler des haches miniatures, parce que ces haches miniatures ne sont pas nécessairement associées à Perun lui-même. Mais ça aurait été quelque chose qui aurait été partagé en termes pour que ça soit clair. À la fois d'une utilité de rituel, à la fois d'une utilité de religion et à la fois une utilité d'esthétique, les haches miniatures comme ça, comme la hache de Perun, c'est quelque chose qu'on retrouve pas juste dans le monde slave, on le trouve beaucoup dans le monde balte et dans le monde scandinave. Et ça souvait souvent cet effet en forme de petites breloques que tu pouvais mettre sur tes vêtements, donc en anglais des pins, là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça servait à démontrer entre autres le statut. Mais chez les Vikings, on sait justement que les pins étaient utilisés, entre autres, pour démontrer le statut également. C'est très, très important. Donc, il semblerait que, ultimement, ce qu'on appelle une hache de Perun ne serait pas nécessairement une hache de Perun, mais que les haches miniatures seraient quelque chose d'omniprésent dans le monde scandinave, balte et slave. Et que, comme il expliquait un petit peu, j'avoue que dans le texte, il va pas vraiment en détail, mais il explique qu'ultimement, c'est une erreur de conception d'appeler ça la hache de Perun, puis il y a eu une erreur dans le temps. Il y avait pas beaucoup de communication entre les chercheurs russes, les chercheurs baltes et les chercheurs scandinaves. Et on aurait attribué cette lâche-là à tort à Perun. Mais en réalité, ça aurait beaucoup d'autres significations, cette fameuse lâche-là. Et il nous donne quelques exemples sur le peu qu'on sait. Dans un premier temps, il nous mentionne, toujours M. Thomas ici, que c'est ultimement la fonction de ces fameuses haches miniatures, qui soient sous la forme de pendentifs comme la hache de Perun ou, dans le fond, des petites broches qu'on pouvait utiliser pour attacher des vêtements. Là, je m'excuse, j'ai le terme en anglais « pin », je suis pas sûr si c'est « broche », c'est le bon terme en français, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ces amulettes-là étaient, dans le fond, parfois portées, il mentionne, de façon discrète par ceux qui dans le fond, les avaient. C'est intéressant, parce que Mjolnir, dans la Mjolnir, le marteau de Thor, dans la culture scandinave, on portait pas le marteau de Mjolnir au départ. C'est pas quelque chose que les païens faisaient, mais ça a été inventé par les femmes, le port du Mjolnir autour du cou. Pourquoi? Eh bien, Pastourelle et Pastoureau, Mjolnir, dans le fond, à la base, c'était plus quelque chose qu'on donnait au niveau des mariages, comme je le mentionnais au début, c'était quelque chose qui était la protection. À l'arrivée du christianisme, qu'est-ce que font les chrétiens pour s'identifier? Ils portent la croix. Et que vont faire les femmes qui contrôlaient en grande partie la religion dans le monde scandinave pour résister à la christianisation, surtout dans le monde de la Suède actuelle? Ils vont se mettre à porter le Mjolnir pour dire « Regarde, toi t'es chrétien, mais moi, je crois à mes dieux. » Donc, c'était de porter le Mjolnir comme un collier, comme une amulette, c'était, dans le monde scandinave, du moins, une façon de contester l'avancée du christianisme. Là, avec la citation ici de M. Thomas, qui raconte que ces amulettes, ces haches de Perun, étaient portées de façon discrète, ça semble peut-être suggérer que c'était aussi la fonction de ces petites haches miniatures. C'était de justement montrer son appartenance aux anciens dieux, de se cacher du christianisme et de continuer de vénérer peut-être en secret différents dieux. Mais là, ça, j'y vais dans l'hypothèse la plus totale. Donc, prenez pas ces mots pour du cash, mais c'est très intéressant parce qu'on peut faire un parallèle avec le monde scandinave. Maintenant, la hache était connectée au dieu de la foudre. Ici, je pense qu'on est tous d'accord. Perun est associé à la foudre. Ukko, le dieu balde finnois, est associé à la foudre. On a également le dieu, Perkunas, lui, est associé au feu, mais il est quand même associé au bouc, et les boucs, je ne l'ai pas mentionné, mais les roues du chariot, hein, qui, dans le fond, Perkunas, il se promène avec deux boucs comme tant avec les roues, et les roues, ça fait le bruit du tonnerre. Donc, même si ce n'était pas explicitement dit dans le texte, clairement, il y a une corrélation avec les orages, je veux pas, quand même, avec Perkunas. Donc, quand même, très intéressant à garder. Il y avait quand même cette connexion à la foudre. Et quand il pense, bon, foudre et feu, veut pas, quand la foudre frappe un arbre, bon, souvent il prend feu. Donc, quand même un parallèle, mais là, j'arrête là. Là, je pars dans tous les sens, ça veut rien dire. Les Slaves vénéraient le feu. C'est probablement beaucoup plus pour ça que Perkunas est associé au feu. Maintenant, on continue. On a aussi une mention que ça aurait pu être donné à des garçons. Dans le fond, durant un certain rituel où il y aurait leur première coupe de cheveux. Donc sûrement un rituel de passage dont j'ignore tout. Je suis vraiment désolé, je ne peux pas donner d'autres informations. Je ne savais même pas que c'était quelque chose dans le monde balte. Je connaissais rien du monde balte avant cet épisode-là. J'en connais encore rien, mais c'est vraiment intéressant. Maintenant, dans le fond, on associe aussi ces petites miniatures de hache des fois à des membres. Là, il appelle ça de Old Russian Druzina. J'ai aucune idée c'est quoi. Probablement une vieille divinité. J'ai vraiment concentré ma recherche sur Perun et Perkunas et Thor. Donc vraiment, je suis pas allé explorer les autres divinités. Mais bon, ça semble être une autre divinité. C'était aussi des items qui auraient pu être connectés avec Saint Olaf. Tout à fait possible. Donc ça serait peut-être associé encore une fois à un culte chrétien. Donc vous voyez, hein, ça big quand même, il y a quand même un mariage entre la culture, la culture païenne des régions, là ici c'est dans le monde slave et le monde balte, et le christianisme pareil. Et donc, des fois aussi ça aurait été mentionné que ça aurait pu être des jouets pour enfants. Donc, c'est aussi possible qu'ils soient représentés comme des petits jouets, là, des petites haches miniatures pour enfants. Maintenant, ce qui est très très intéressant avec ces informations-là, c'est qu'on se rend compte que c'est très axé soit sur le rituel, soit en fait sur l'identité religieuse, comme pour ceux qui les portaient. Moi, ça m'intéresse beaucoup, je vais continuer de chercher dans ce domaine-là. Et bon, c'était donné dans des rites de passage. Et d'ailleurs, on retrouve ultimement, il nous dresse un magnifique tableau ici où il montre justement que on a retrouvé dans des... je recommence cette phrase-là au complet, je m'excuse. Ça commence à être long, pardonnez-moi, là, j'ai la bouche qui commence à avoir la misère. Donc, il nous fait un magnifique tableau qui nous montre ultimement que c'était souvent enterré avec... ces miniatures étaient souvent enterrées dans les tombes. Rien de surprenant, on l'a vu un peu chez les Scandinaves, c'est quelque chose qu'on faisait dans le monde germanique, dans le monde scandinave, dans le monde, là, on le voit à Bâle, probablement en slave également, là, pour ces deux derniers. Le monde matériel et le monde immatériel sont pas déconnectés. Les gens apportent leurs outils dans l'au-delà parce qu'ils vont en avoir besoin. Et donc, on a remarqué que c'était souvent mis du côté droit. Il mentionne que la position de la miniature dans les tombes est souvent à côté des hanches ou des jambes. Mais des fois, c'est sur le torse. Il nous mentionne également que c'est très mix ceux qui avaient ça dans leur tombe. On a des hommes adultes, on a des femmes adultes, et il nous démontre qu'il y a beaucoup d'enfants. Hein, des enfants, surtout entre 3 et 5 ans, qui auraient eu ces haches. Donc, dans leur tombe, toujours. Donc, est-ce que c'était quelque chose qui était nécessaire dans l'au-delà? Est-ce que c'était comme un, je sais pas, comme un paiement, un artefact qui quittait? Rendu là, c'est de la pure spéculation, là, j'en ai aucune idée, mais c'est quand même intéressant de remarquer que les gens étaient enterrés avec ça. Donc, clairement, ça avait une importance. Et Pastourelle et Pastoureau, ça m'a amené, en fait, cet article-là, à me poser plusieurs questions, de me rendre compte que finalement, la hache de Péroun, c'est pas réellement la hache de Péroun. C'est des haches miniatures qui étaient très populaires dans le nord de l'Europe. Et on aurait associé ça à Péroun par erreur. Mais il n'y a pas que Péroun qui aurait eu cette hache-là. Donc, encore une fois, il faudrait faire plus de recherches sur ce domaine-là. C'est juste dans l'introduction qui est mentionné qu'à cause d'un manque de communication entre les chercheurs russes, baltes et scandinaves à l'époque, on aurait mis le nom H de Péroun et que c'est pas réellement représentatif. Mais je peux pas vous donner plus d'informations que ça. L'article s'arrête là sur ce sujet. J'aimerais en savoir plus, donc je vais sûrement chercher davantage. Et si jamais je trouve davantage d'informations du pourquoi on a appelé ça la H de Péroun, comment est-ce que cette idée-là est venue, est-ce que c'est une question de patriotisme, de symbolisme historique. Bon, des fois, on veut s'approprier des parties de l'histoire, on les nomme par rapport à nos divinités anciennes, par exemple, mais on se rend compte que plus tard, ça leur appartient pas du tout et que c'est une erreur, en fait, historique. C'est peut-être ça, une hypothèse, encore une fois, très peu de certitude. Maintenant, Pastourelle et Pastoureau. Pour conclure ce second volet et cet épisode, mes chers amis, on récapitule un peu ce qui se passe dans le monde balte. Dans un premier temps, on a vu que du 2 au 5e siècle, sont en âge d'or. Ils ont le contrôle du métal, ils contrôlent la route du métal, littéralement, et qui ont une grande production en ambre également. On a vu également qu'ils ont beaucoup commercé avec les Germains et les Romains, et sûrement avec les Slaves, par défaut aussi les Scandinaves, et que donc, ultimement, ils ont beaucoup de contacts avec autrui. On a vu également que le dieu balte, Perkunas, ressemble énormément au dieu Thor, encore plus qu'il ressemble à Péroun. On voit qu'il y a beaucoup de similarités entre ces deux dieux. On voit également que dans des textes qui parlent des dieux baltes, on a des références aux chiffres comme dans le monde scandinave. Là où je veux en venir, c'est clairement, et c'est sans surprise, il y a eu un échange entre le monde germanique et le monde balte, et par des découlements aussi probablement le monde scandinave. Les dieux, c'est quelque chose qui se partage à travers les régions, c'est tout à fait normal. Et donc, on peut clairement voir ici qu'il y a une très grosse influence, un a influencé l'autre, je ne sais pas qui a été le premier, puis ça n'a pas d'importance, mais qu'ultimement, ça a été influencé. Maintenant, Pastourelle et Pastoureau, c'est là que je vais aller dans une théorie qui vaut rien. Donc, à partir de maintenant, ce que je dis ne vaut plus rien, fermez vos oreilles à la limite, c'est pour ceux qui s'intéressent. Le fait que l'âge d'or du monde balte, en termes de commerce, commence au 2e siècle et se termine au 5e siècle à peu près. Sachant que Péroun est un dieu excessivement récent, de quelques siècles ou même quelques décennies, est-ce que le dieu Péroun aurait été intégré dans le monde slave à travers le contact avec le commerce baltique, qui aurait eu un échange culturel et qui aurait ultimement, Péroun aurait repris ultimement le flambeau de Perkunas? Ou peut-être, une autre théorie, lors de l'expansion viking, hein, entre autres au 8, 9e, 10e siècle, quand les vikings, entre autres, vont rentrer dans le monde slave, quand ils vont rentrer avec les Varegs et les Russes, on a fait un épisode là-dessus ensemble, est-ce que ces derniers ne vont pas intégrer une partie de leur religion et du contact avec les Bâles et qui connaissaient Perkunas et du contact avec maintenant les Scandinaves? Et là, je pense pas que juste les expansions vikings qui font un contact avec le monde slave et le monde scandinave, mais quand même, l'expansion des, entre autres, de la Suède dans le monde slave va être tellement significative. Littéralement, ils vont prendre le contrôle des régions slaves. Donc, clairement, l'influence va être plus forte. Est-ce que justement, on n'aurait pas fait un rapprochement entre Thor, Perkunas et le dieu Péroun serait né par la suite, Surtout que Péroun était vénéré par la Russie kievienne. On sait que justement les Russes vont s'installer surtout dans la région kievienne. Et est-ce que dans le fond, les enfants des anciens Scandinaves, qui sont évidemment slaves, parce qu'on l'a vu, les Scandinaves s'assimilaient rapidement, ont pas associé l'ancien dieu de leur arrière-arrière-grand-parent, peut-être scandinave, qui était Thor, avec le dieu qu'ils connaissent des Bald Perkunas, et qui n'aurait pas donné naissance au dieu Péroun. Ultimement, ce que je veux vous dire, c'est, est-ce que Péroun n'est pas un empereur direct du monde Bald ou du monde scandinave par la conquête, ou des deux, c'est fort possible. Mais ça, Pastourelle et Pastoureau, c'est une théorie qui vaut rien, parce qu'il n'y a absolument rien que je peux donner ici qui va le prouver, autre que clairement, il y a des similarités. Mais ça peut être arrivé de plein de façons. Peut-être qu'ultimement, ça n'a aucun rapport avec l'avancée des Scandinaves dans le monde russe. Peut-être que les Slaves ont ultimement acheté le métal des, par exemple des Baltes, mais peut-être qu'ils faisaient tous les bijoux sur place et que Péroun, ça vient d'un contact, mais qui vient pas nécessairement du commerce direct, dans le sens où, ce que j'entends par là, juste que ça soit clair, là, que ça soit pas les gens dans le monde Balte, les, mettons les forgerons, les orfèvres, qui auraient fait les haches de Péroun et qui les auraient vendues aux Slaves. Et là, les Slaves se seraient dit, ah, c'est beau, on va les prendre et on va assimiler leur religion. C'est peut-être qu'ils achetaient les matériaux bruts, donc le métal, l'ambre, faisaient les haches. Et que cet échange culturel, on l'a vu, là, les haches de Péroun, ce qui est ultimement faux, on appelle ça maintenant des haches miniatures dans la, voyons donc, dans la, dans le courant, le pas le courant, mon Dieu Seigneur Gabriel, là, l'épisode commence à être long. Là, ça finit, je m'excuse, je suis désolé, là, je commence à déparler. Ultimement, que les haches miniatures sont le terme scientifique qu'on utilise maintenant, qui est plus représentatif de la réalité de cette fameuse hache, en guillemets, de Péroun. Mais on sait que c'était déjà partout, ça. On sait qu'on avait dans le monde scandinave, dans le monde germain, dans le monde barbe, dans le monde slave. Donc, ultimement, peut-être que c'est tout simplement que cette hache était déjà portée bien avant l'arrivée de Péroun chez les Slaves, mais que avec, à force de faire des contacts, Péroun est rentré progressivement et en associant la hache à Péroun, Péroun c'est à Perkunas, Péroun est né. C'est possible, mais c'est que des théories, et des théories qui valent rien. Pastourelle et Pastoureau, oh mon Dieu, mais quel épisode. Hey, j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à faire cet épisode-là. Je sais que c'était gros, ok, c'était un gros morceau. Si c'était ton premier épisode à Ad Medievum Internum, je m'excuse, ok, je suis vraiment désolé. Mais c'était hyper intéressant, et là, évidemment, il y a plein d'autres détails. Je vous ai pas parlé du dieu Bald qui ressemble à Odin, mais là, la vidéo se tire, faut que je coupe les morceaux. Mais, ultimement, ce que je veux vous mentionner ici, c'est que c'est important d'avoir des passionnés dans sa vie. C'est important d'avoir des gens qui partagent des passions que vous connaissez, d'avoir des gens, ça prend des gens passionnés dans un monde pour le rendre intéressant. J'aurais l'arrogance de dire, je sais que je parle un peu pour, en fait, je prêche pour ma paroisse parce que je suis passionné, mais je tiens vraiment sincèrement à remercier le coffret celtique. C'est rare que j'ai des discussions aussi poussées sur des termes extrêmement précis et complexes sur le Moyen-Âge. Donc ici, Christiane, Michel, un immense merci pour cette conversation. C'est grâce à vous que j'ai réussi à faire cet épisode-là. J'espère que ça vous a plu, tout le monde. Donc, Pastourelle et Pastoureau, on se voit dans 2 semaines. Je tiens à le rappeler. Maintenant, je suis sur YouTube aussi, pas pour les épisodes audio, mais pour des ateliers vidéo où on fait de la paléographie médiévale ensemble. Facile à trouver, vous tapez Ad Medievum Internum sur YouTube. Je vous jure, il n'y en a pas deux. Et vous allez tomber sur 2 ateliers déjà, Pastourelle et Pastoureau, d'1 heure, si jamais ça vous intéresse. Merci à ceux qui me supportent sur Ad Medievum Aeternum Plus. Vous êtes de plus en plus et ça m'aide énormément parce que tranquillement, je peux déplacer ultimement un peu plus de mon temps sur le podcast que sur mon travail, ce qui est quand même hyper agréable. Et je peux mettre plus de temps sur ce projet-là. Donc, c'est hyper apprécié. Partagez cet épisode. Allez voir le coffret celtique. Mes chers amis, j'ai très, très hâte de vous voir dans 2 semaines. Et d'ici là, Pastourelle et Pastoureau, n'oubliez pas, le Moyen-Âge est mort. Vive le Moyen-Âge. Merci encore de votre écoute cette semaine. Pour faire juste crédit, la musique que vous entendez présentement et au début de l'épisode vient de Julius H. de Pixabay.